Tu m'as poussé à boire, s'exclame Pep le lendemain. Et j'ai la gueule de bois. C'est la meilleure. Alice nous propose de visiter un cimetière très spécial. Une nécropole dont mon cerveau encore imbibé ne retient pas le nom. C'est le lieu où on dépose les urnes funéraires des enfants morts-nés, des fausses couches ou des bébés décédés avant l'âge de 2 ans. Chaque sépulture porte l'effigie d'un enfanson sous forme de statuette. On dirait de mini-bouddhas endormis, enveloppés dans des kimonos de pierre. Partout ailleurs, un endroit pareil inciterait à pleurer. Ici, on sent comme une grâce. S'il est hors de doute que les parents endeuillés ont aimé leur petit défunt, il est clair que le drame a été accepté. On a eu le cœur brisé, on s'est laissé transpercer par le malheur, on n'oubliera pas. Ce qui l'emporte au final est une grande paix. Les visages des statuettes de bébés sont souriants, aucune amertume. Ils sont contents de leur sort. Ce qu'ils nous transmettent, c'est que c'est pour nous que c'est dur. Pep et moi, encore engoncés dans les brumes de l'alcool, en sommes convaincus. Alice nous explique tout cela avec ferveur. « Je ne connais aucun cimetière qui dégage tant de douceur », dit-elle. Elle a raison. Il se met à pleuvoir, ce qui démultiplie cette impression. Cette nécropole me parle à moi, qui me sens bloquée au stade du miroir depuis une semaine. Depuis une semaine ? Allons donc, depuis toujours, grince la voix sardonique qui me tense en permanence. Suis-je, moi aussi, l'un de ces bébés défunts ? Non, je suis en vie, et j'ai en apparence l'indépendance d'une adulte. Une jeune femme se tient face à une sépulture. Elle n'a pas l'air d'avoir besoin d'un stoïcisme particulier pour supporter la proximité de celui qui est, je le devine, son enfant trépassé. Elle est simplement venue lui rendre visite. La pluie redouble. Alice nous emmène déjeuner. Rien de tel qu'un bon bol de nouilles au bouillon pour nous réchauffer et nous remettre sur pied. « Ça va mieux », déclare Pep avec une expression de ressuscité. Pour le dessert, nous nous rendons chez un artiste pâtissier au rez-de-chaussée d'un centre commercial énorme. Sous les yeux d'un public averti, entouré par ses jeunes assistants qui donnent à sa pâte de riz des coloris d'une délicatesse insensée, l'homme sculpte des pétales de formes diverses et les assemble pour confectionner des chrysanthèmes, des roses de Bulgarie, des hortensias et des iris. Ces derniers me paraissent une gageure vouée à l'échec. Il n'en est rien. L'artiste a le tour de main pour imprimer aux pétales bleus l'allure lancéolée de l'iris. Ses doigts touchent à peine ce qu'il fait. Il travaille avec des baguettes, dont il ne cesse de changer, comme ses gants de latex, qu'il remplace à chaque fleur. Assise face à son stand, nous demeurons interdites pendant au moins 1 heure. Alice finit par nous dire qu'il faut consommer. Pep s'écrie « On mange ces fleurs ?» Je comprends sa stupéfaction et l'idée de mastiquer ces splendeurs choque. « Elles sont délicieuses », assure Alice. Une dame en kimono prend nos commandes et nous conseille. « Si vous choisissez l'iris, honorable cliente, je vous suggère de l'accompagner de notre matcha, Sei Shonagon. » On m'apporte l'iris en majesté sur une assiette carrée. La dame fouette montée de cérémonie et m'invite à déguster. Ce n'est jamais que de la pâte de riz, mais elle a cette saveur indescriptible pour laquelle je donnerais tous les gâteaux du monde. Faute de mieux, je l'appelle la fadeur poétique japonaise. J'ai conscience du caractère péjoratif de cette dénomination. Je ne trouve cependant pas plus approprié pour désigner ce goût peu marqué en retrait aux antipodes des saveurs prononcées des pâtisseries occidentales. Par exemple, s'il est un état impossible à atteindre avec cet iris comestible, c'est l'écœurement. Sa dégustation exige un recueillement méditatif. Au Japon, il n'existe pas d'autre poudre cosmétique que celle de riz, dont l'emploi est colossal. Le samouraï devait avoir dans sa besace un peu de cette poudre afin de se matifier le teint. S'il recevait un coup mortel, il ne serait pas dit que son cadavre aurait mauvaise mine. Pour les préparatifs quotidiens d'une seule geisha, un poudrier entier était nécessaire. Est-ce cette connexité qui contamine mon gâteau d'un arrière-goût de maquillage nippon ? Je prends une gorgée de matcha Sei Shonagon, C'est l'empereur d'été des cérémonies. L'habituelle saveur marine se raffine jusqu'à l'algue. J'ai l'impression de boire la mer du Japon. L'accord gustatif avec l'iris est idéal. L'aventure gastronomique m'accapare au point que j'ai oublié mes amis. Je m'aperçois soudain qu'Alice, face à sa rose de Bulgarie, prie comme une moniale zen. Quand Pep photographie son hortensia pour le mettre sur les réseaux. « Il n'y a que moi qui consomme », dis-je. Alice sort de sa méditation et déguste la fleur à l'aide de la minuscule cuillère de bambou prévue à cet effet. Pep saisit le gâteau à la main et le mange en quelques bouchées sans remarquer la stupeur qu'elle provoque chez les dames en kimono. « Je peux en commander un autre ?» je demande. Cette fois, c'est moi qu'on regarde comme la barbare de service. Vous venez d'avoir accès à un prodige de splendeur et de civilisation, et au lieu de garder cette sensation en vous pour l'honorer longuement, vous en exigez encore ? Je baisse la tête de honte. Alice feint d'ignorer qu'elle promène deux Gauloises et trouve un prétexte pour nous fausser compagnie. Pep manifeste le désir de découvrir le café des Lapins à l'autre bout de la ville. Tu es sûr que c'est une bonne idée ? Évidemment, répond Pep. Voir des lapins à Tokyo, ça ne te tente pas ? Mon ami, je l'ai dit, vous, aux Léporidés, un amour est perdu. Cela ne se discute pas. Après un trajet en métro, d'une complexité extrême, nous débarquons dans les bas-fonds de la ville. Au bout d'une ruelle, nous montons au quatrième étage d'un immeuble misérable où se situe le mal nommé Café des Lapins, qui ressemble à un dispensaire où de courageuses jeunes femmes, vêtues de combinaisons étanches et coiffées de charlotte, biberonnent des lapins qui ont des frémousses de repris de justice. J'entre, il règne une odeur épouvantable. « Ça sent le lapin !» déclare Pep en pâmoison. Je prends sur moi pour supporter ce remugle qu'endurent continuellement les hôtesses. Des lapins sautillent sous nos pieds, on nous invite à nous asseoir pour éviter de blesser les bestioles. Nous commandons une boisson, ce qui nous donne le droit d'admirer les animaux. Mais pas de les toucher, aux grandes dames de Pep, qui brûlent de les étreindre. « Tu as vraiment envie d'embrasser des lapins qui sentent si mauvais ?» dis-je. « C'est leur déjection qui sentent mauvais, pas eux !» s'indigne mon ami. Il n'empêche qu'on baigne dans cette puanteur et que je ne parviens pas même à boire le jus de fruits qui m'a été servi. Pep parlemente avec les soignantes, je traduis ses arguments. À Paris, je vis avec un lapin. Il me manque. Nous vous comprenons, honorable cliente. Si je pouvais prendre l'un de vos lapins dans mes bras, je ne lui ferais aucun mal, je les connais bien, et cela me soulagerait. Nos lapins sont très fragiles, nous redoutons la contagion. Étrangement, Pep capitule. Moi, j'ai envie de demander quelle contagion risquent les lapins dans nos bras. Mon ami les contemple un par un, les décrit avec dévotion. Regarde celui-là, il est fragile, il revient de loin. Je leur trouve à tous des airs de gangsters, dis-je. Tu as raison. Un lapin, c'est quelqu'un qui prépare un casse. C'est pour ça, aussi, que je les adore. Alors pourquoi dis-tu que celui-là est fragile ? C'est la vérité. C'est des cas sociaux, ces lapins. Comment veux-tu qu'ils ne sombrent pas dans le banditisme ? Je vois que Pep est irrécupérable. Son indulgence envers les Léporidés ne connaît pas de limite. Intimement, je comprends Alice d'avoir refusé de nous accompagner dans cet endroit qui sent le clapier. Mon ami reprend par mon truchement son dialogue avec les soignantes. Pourquoi n'envoyez-vous pas vos pensionnaires sur l'île des lapins ? Nos honorables pensionnaires ont eu des destins difficiles. Ils ont été achetés par des enfants tokyoïtes qui les ont abandonnés. Si seulement ils nous avaient été directement adressés. Nous les avons sauvés un à un, alors qu'ils étaient réduits à l'état de clochards. Ils n'ont pas assez de force et de santé pour vivre sur cette île, où les lapins sauvages ne leur laisseraient aucune place. Et puis il est interdit d'emmener des animaux sur l'île des lapins. L'île des Lapins, où je ne suis jamais allée, est ce territoire insulaire entièrement dévolu aux lagomorphes. Les humains ont le droit de s'y rendre pour quelques heures, à l'unique condition qu'ils respectent une règle. Ne pas donner à manger d'autre nourriture aux lapins que celle vendue sur place, ce qui leur confère le droit de les photographier. Pour Pep, l'île des Lapins, c'est l'équivalent du festival de Bayreuth pour le fanatique d'opéra. Je ne sais pas par quel miracle notre voyage n'a pas inclus un pèlerinage là-bas. Elle est où, cette île ?
Du côté d'Hiroshima, répond Pep.
Ceci explique cela. Je bénis notre périple d'être si bref. Si nous avions eu le temps d'aller voir Hiroshima, Pep ne m'aurait pas épargné l'île des lapins. Ce que je trouve pénible, c'est cette prolifération. Le café des lapins, grand de 30 mètres carrés, contient une quarantaine de Jeannot. Cette supériorité numérique me donne l'impression que je vais me transformer en carotte. Mon amie, elle, est aux anges et me fait traduire d'innombrables questions aux soignantes. La dernière fois que j'ai autant travaillé comme interprète, c'était dans l'import-export et cela a abouti à stupeur et tremblement. À présent, je ne suis plus harcelée par des supérieurs hiérarchiques, mais par des lapins. L'une de ces adorables petites bêtes vient déposer des crottes sur mon pied.
« Il t'aime !»
s'extasie Pep. L'amour a bien des mystères. J'ai envie de secouer mon pied, mais je devine que j'offenserai ce nouveau prétendant et que Pep ne me le pardonnerait pas. L'une des soignantes m'annonce que le temps réglementaire s'est écoulé et que si nous voulons rester davantage, il nous faut commander une boisson supplémentaire. Malhonnête, j'omets de traduire à mon ami la seconde proposition. Nous payons, je remets mes chaussures après m'être débarrassée de la chaussette qui a reçu l'offrande amoureuse. À l'extérieur, je me gorge d'oxygène sans miasme. Pep commente notre visite avec enthousiasme. J'approuve ses moindres déclarations. Je lui demande si elle ne veut pas m'accompagner au bain traditionnel de l'hôtel. Elle accepte. Délice de se récurer de pied en cap et de se purifier dans l'eau fumante. C'est déjà notre ultime soirée tokyoïte. Je ne me sens capable que d'emboucher à l'avance la trompette de la nostalgie, bien que cela me soit interdit. Je lui laisse l'initiative de notre emploi du temps. Nous traînons dans des rues nocturnes que je ne m'efforce pas d'imprimer. Mon ami avise un bar où on sert de la Guinness.
Une Guinness à Tokyo, ça te dit ?
Est-ce prudent après notre cuite d'hier soir ?
La Guinness, c'est pas de l'alcool, dit Pep péremptoire.
Vendu. Nous nous installons au bar de ce qui ne se révèle pas être un Irish pub. C'est un établissement sans prestige, il n'y a presque personne. Nous commandons deux pains de Guinness qui nous sont servis dans les règles de l'art. C'est un trait nippon que j'apprécie. Si un Japonais vous propose quoi que ce soit, il s'y connaît. Le barista s'avère être un spécialiste de la stout. Il est enchanté d'avoir enfin des clientes.
Les gens n'aiment pas beaucoup cela par ici, me dit-il.
Pep me fait lui traduire que la Guinness est sa religion et qu'elle m'y a converti. C'est exact. C'est elle qui m'a appris à boire cette merveille, 20 années auparavant. Le barista s'adresse dès lors à mon ami comme à une divinité. Je dois l'empêcher de nous offrir une seconde pinte.
Pourquoi ?
S'indigne Pep. Rappelle-toi ce matin dans quel état tu t'es réveillé. Manifestement, ce souvenir est déjà lointain.
Pourquoi tu as l'air triste ?
Me demande Pep.
Parce qu'on part demain.
Mais alors, tu n'as pas envie de rentrer ? Quitter le Japon est toujours une épreuve pour moi.
Arrête avec ça ! De toute façon, tu n'es pas prête à vivre ici.
Elle dit vrai. J'ai essayé de vivre ici, j'en suis incapable. Pour autant, mon amour pour ce pays est profond. Le Japon est mon premier échec amoureux et chaque fois que j'y reviens, je revis ce coup de foudre et le constat que je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est une phrase que je me répète 50 fois par jour et pas uniquement sur le sol nippon. Il n'empêche que c'est le pays du soleil levant qui m'a appris ce sentiment effroyable. Je n'y arrive pas.
À quoi ?
À tout ?
À rien ?
À vivre au Japon ?
À vivre ?
Froncement de sourcils. Non, ce n'est pas au Japon que j'ai découvert cette incapacité.
C'est à Tokyo.
C'est la capitale qui m'a révélé ce handicap si grave qui ne porte pas de nom. Enfant, dans le Kansai, j'y arrivais et j'y arrive toujours. C'est à Tokyo que j'ai perdu les pédales et que je continue à les perdre. Cette impression d'amnésie tokyoïte est au contraire une forme d'hypermnésie. Ce que je trouve ici, intact, c'est la conviction implacable de mon néant. À l'âge de 15 ans, comme n'importe quelle adolescente, je me suis disputée avec mon père. Il y a coupé court avec tes déclarations. Toi, tu es comme moi. Tu n'es rien. J'en suis restée indignée, sans voix.
Qu'est-ce qu'il voulait dire ?
Lui, rien ?
Moi, rien comme lui? Je n'ai jamais compris cette malédiction absurde. Si mon père m'avait dit cela en japonais, langue que je partageais avec lui, j'aurais pu y voir quelque chose de beau, de prometteur, l'accomplissement suprême du néon nippon. Mais le ton de l'engueulade ne laissait pas place au doute. Il s'agissait de me réduire à la portion congrue et, curieusement, de s'y associer. Donc ce héros qui avait sauvé plus de 1000 vies humaines, ce fin diplomate, ce chanteur de nos, cet homme d'une culture effarante, se tenait pour un zéro pointé et m'attribuait la même note. D'où pouvait venir pareille déconsidération? Sans en saisir l'origine, je sais que je l'ai attrapé. Il n'y a pas que du mauvais à cela. De tous les périls qui menacent l'écrivain, le pire est l'autosatisfaction. Il n'empêche, j'aurais préféré une humilité saine à ce vertige de nullité auquel je suis continuellement confrontée et que Tokyo a si largement contribué à instaurer en moi. Tokyo et mon père. Celui-ci avait toujours affirmé que le but de son existence était de devenir ambassadeur à Tokyo. Il l'atteignit et garda ce poste pendant 9 ans, durée d'une longueur stupéfiante qui se justifiait par une vocation sans égale. De là à identifier mon père à Tokyo, il n'y a qu'un pas. En outre, si je n'avais pas vécu cet échec tokyoïte, je n'aurais jamais tenté de publier. Il y a des humiliations fécondes. Ce n'est pas pour autant que l'ambiguïté disparaît. Je dois tout à une ville qui m'a mise nez à nez avec mon incompétence profonde. Pendant que je rumine ces pensées édifiantes, Pep et moi quittons le bar et faisons du lèche-vitrine. Mon ami essaye une 20aine de manteaux, de kimonos, avant de trouver celui qui convient. En mode pilotage automatique, je lui donne mon avis. Enchanté de son achat, Pep ne quitte plus son nouveau vêtement. « Pourquoi tu t'habilles comme ça ?» me demande-t-elle. Je me regarde et je m'aperçois que pendant le séjour entier, j'ai porté une vaste chemise noire, une jupe trapèze noire et des godillots. Je réponds « Je cherche à me déguiser en banana Yoshimoto. » « C'est qui ?» Une romancière japonaise à succès. Tu lui ressembles ? Non, mais je l'aime bien. Nous dînons d'un soba et je reconduis Pep à Nerima. Je rentre à l'hôtel en appréciant que l'ultime soirée tokyoïte n'ait pas donné lieu à plus de cérémonies. Dans ma chambre, je termine de lire à rebours. Il m'importe de finir cette relecture à Tokyo. Mon pèlerinage passe aussi par là sans que je puisse forcément l'expliquer. Dernière nuit. Je m'efforce de ne penser à rien. J'ai du mal. Je me concentre sur la position couchée. La nuit d'après, je la passerai dans l'avion. Je n'aurai pas le luxe d'être allongée. Tout plutôt que laisser place au désespoir, à ce sentiment d'échec et de trahison. Une fois de plus, je vais quitter le Japon. Et à présent, je ne peux plus accuser mes parents ou la fatalité. Je pars en adulte responsable. J'ai choisi de ne pas rester. Comment vais-je concilier une telle attitude avec l'amour infini qui me relie à ce pays?